Écho d'économie, Georges Kamoudova.
Ah ben, je ne suis pas seul. Berry Luchaka nous donnera les infos économiques au pays.
Des infos des entreprises qui viennent du Katanga, du Maniema et de la province orientale. Les informations, Georges, c'est aussi ce quinquennat qui vous tient, qui rafle la vedette aux autres cultures de la région. Nous allons appeler Etienne Moïndouda à Boutembo dans deux minutes, juste avant de recevoir Jocelyne Moussa Opondé pour l'économie en dehors de la RDC.
Et ce retour progressif des activités de diamants en Bujimai, c'est le reportage de Nike Mputu à suivre dans la seconde partie de cette émission. Une seconde partie qui aborde la polémique entre la RDC et l'Ouganda sur le pétrole du lac Albert. Nous analyserons cette question avec Aloïs Teguera, analyste de Polé Institute. C'est l'invité de l'économie à suivre dans 10 minutes. Les infos au pays Berry, la production de Tenkefungurume Mining en cuivre sera plus élevée que prévu.
Elle devrait même dépasser les prévisions de 500 000 tonnes par an. C'est ce qu'a déclaré le patron de Lundi Mining, une entreprise qui détient le 1/5 de TFM. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de nos capacités et je pense que nous allons voir sur Tenke des surprises au cours des 5 prochaines années, a déclaré Phil Wright au cours d'une conférence à Londres.
Et à Bukavu, manioc et huile de palme en provenance de Bunyakiri, ça double de prix.
Double au prix en moins de 2 semaines. Il y a risque même que ça soit difficile pour les habitants de la ville. Une situation consécutive à la fermeture de la route Bukavu-Bunyakiri à cause de l'insécurité. Les usagers refusent de reprendre le trafic et réclament des garanties de sécurité aux autorités.
Et silence, on pille le patrimoine de la Soumenki.
C'est le cri de la société civile du Maniema. La Soumenki, c'est la société minière du Kindu. Cette société minière qui a fait jadis la fierté du Maniema et des deux Kivu devenus Sakima est source de pillage. La société civile dénonce cet acte et affirme que plusieurs machines sont déplacées, voire volées. Des maisons sont dépouillées de leurs tôles et cela au vu et au su des autorités de la place.
L'Okimo édifié sur sa transformation en société commerciale.
Plus de 200 agents et cadres de l'Office des mines de l'or de Kilomoto ont pris part à cette séance hier. À en croire l'administrateur délégué général de cette société étatique, cette réforme vise à rendre l'entreprise plus viable afin de contribuer au développement de l'État et à améliorer les conditions de vie de la population. Cette transformation, affirme Willy Bafoua, va permettre également d'accroître les investissements étrangers et créer des nouveaux emplois.
La nouvelle économique au bout du fil.
Au bout du fil ce soir, Etienne Moindo en direct de Boutembo. Etienne, la production du quinquennat reprend des grandes vitesses dans le nord du Kivu. L'écorce de cette plante entre dans la fabrication de la quinine et même de certaines liqueurs comme le martini. Après des années de guerre, cette plante repousse ainsi son influence.
Oui, Georges, il faut d'abord rappeler que notre pays, la République démocratique du Congo, est le premier producteur de quinquina dans le monde.
Très bien.
Et pour revenir au secteur de Boutembo-Lubero, où cette plante occupe la première place sur le plan de la rentabilité devant les cafés et les bananiers, eh bien, les plantations paysannes de quinquina occupent une superficie d'environ 12 000 hectares, selon les responsables de l'Office national du café, centre de Boutembo. La même source indique que le quinquina, contrairement au café, est exporté officiellement vers l'Europe et même vers l'Inde. Et son prix par kilo est d'environ $1.
Est-ce que l'État bénéficie de ces exportations, Étienne?
Oui, sur chaque kilogramme destiné à l'exportation, l'État prélève 2%. Et l'État, à travers ce service de l'agriculture, a prévu l'ONC, qui est l'Office national du café, ne cesse de vulgariser cette plante et sa production est à 1000 croissance. Et si à 2003, la production était de 4130 tonnes, l'année suivante 5912 tonnes, et en 2007 la production a dépassé les 7000 tonnes, et cette année alors que l'on est encore au début du mois de juin, les statistiques montrent que plus de 3000 tonnes d'écorce de quinquina pour une valeur de 2 700 000 $ ont été exportées.
Et j'imagine que les grands commerçants de Boutembo s'intéressent également à la culture de quinquina.
Oui, écoutez, Georges, bien la loi dit que tout exportateur doit en même temps être planteur. Ici, les établissements Plavuma, Esco, Kivu, Platalmou possèdent aujourd'hui des vastes plantations de quinquina. Platalmou a une plantation de 140 hectares. Pharmakina, dont l'usine de traitement de quinquina est installée à Bukavu, possède des plantations dans les collectivités de Batangui, de Batoa, et dans le territoire de Lubero. Toutes ces sociétés emploient près de 300 travailleurs chargés de sacler et de récolter lorsque la plante arrive à maturité, Georges.
En tout cas, merci beaucoup, Étienne Mouindo, pour toutes ces précisions depuis Butembo. Bonne soirée à tous ceux qui nous suivent dans cette ville sur 92,9 FM.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Jocelyne Moussa Opondé.
Quelques petites infos, Jocelyne. Les entreprises africaines peuvent devenir nettement plus compétitives.
Et cela si seulement les gouvernements africains et leurs partenaires internationaux améliorent l'accès au financement, ne cèdent pas à la pression qui les pousse à ériger des obstacles au commerce, modernisent les infrastructures, améliorent les systèmes de soins de santé et d'éducation et renforcent les institutions. Ces conclusions résultent des études menées par les forums économiques mondiaux, la BAD et la Banque mondiale. Elles ont été rendues publiques aujourd'hui à l'occasion du lancement d'un nouveau rapport intitulé « Rapport sur la compétitivité en Afrique 2009 ». Ce rapport conjoint est publié dans la perspective du Forum économique mondial sur l'Afrique qui se tient en Afrique du Sud.
Et qui se clôture dans deux jours. Et à l'international, les cours du pétrole remontent à 70 dollars.
Et d'ailleurs, le patron de British Petroleum voit le baril entre 60 et 90 dollars dans les prochaines années. Tony Hayward, qui commentait devant la presse le rapport annuel sur l'énergie du groupe pétrolier britannique, a noté que les consommateurs semblaient n'avoir pas de problème à payer le baril jusqu'à 90 dollars, tandis que le producteur risque de cesser la production s'il tombe sous les 60 dollars.
Merci Jocelyne Moussa Opondé pour ces quelques infos en international. Vous suivez en ce moment Écho d'économie sur Radio Okapi qui entre dans sa seconde partie.
Écho reportage.
L'éco-reportage nous amène au Kassai Oriental où on observe une reprise progressive des activités de diamants. Plusieurs bureaux et comptoirs d'achat de diamants fermés il y a quelques mois ont rouvert. Bien qu'aptis pas, cette reprise redonne espoir aux creuseurs et autres travailleurs dans ces secteurs des mines au détriment de l'agriculture, la priorité des priorités de la province. C'est un reportage de Nikem Poutou.
La vingtaine de comptoirs agréés en fin 2008 avaient mis la clé sous le paillasson. Ensemble avec les agréés, les petits négociants et commissionnaires étaient asphyxiés par la chute du prix de diamants sur le marché mondial. Celui-ci était passé, d'après les experts, de 45 dollars américains le carat de l'industriel à 8 dollars. Même la minière de Bakwanga, Miba, a été contrainte de suspendre temporairement sa production. La crise était alors à son optimum. Mbujimai, qui n'a survécu jusque-là que grâce au diamant, était malade. Au Kassai Oriental, quand le diamant va mal, tout va mal. À ce jour, la reprise des activités de diamant se fait sentir. Les klaxons des motos quand un diamant est découvert ou vendu ont repris. Les creuseurs et autres travailleurs sont à nouveau devenus dépensiers. Les gargotes et les boîtes de nuit ne désemplissent plus. Même dans les marchés, les produits de première nécessité se vendent à une vitesse accentuée. Les marchands et marchandes affirment enregistrer des ventes considérables. Pour le Conseil provincial de diamantaire CPD, cette situation fait renaître l'espoir, comme le témoigne ces négociants rencontrés au hasard devant son bureau.
La reprise est effective. Je pense que même en Anvers, un peu partout, les diamants sont recherchés, on achète quand même. Il y a l'argent en permanence pour l'achat de diamants. Depuis le mois d'août de l'année passée, j'ai remarqué une crise d'argent d'abord et une crise d'acheteurs. Il n'y avait pas vraiment d'acheteurs ici au Congo, même notamment ici en Mbujimayi. Ici en Mbujimayi, les bureaux à Kalawangata, que ce soit les expatriés, les nationaux, tout le monde avait fermé. C'est au mois de mars, si je ne me trompe pas, que les autres ont su revenir ici pour commencer à acheter. Parce que c'était bloqué, il n'y avait plus de ressources. Ils ont acheté pour épuiser tout ce qu'ils avaient comme fonds et ils ne savaient pas revendre. Lorsqu'il y a eu chute, baisse vraiment catastrophique des diamants.
Tout n'est cependant pas encore en rose. Le carat du diamant au niveau de la bourse mondiale oscille encore autour de 15 dollars pour le diamant industriel. Mais le constat amer est que cette reprise menace les objectifs des autorités de faire de l'agriculture priorité de priorité de la province. Mbujimayi, Nikem Poutou, Écho d'économie.
L'entretien de ce soir.
L'Ouganda accuse la RDC d'avoir installé un poste frontière sur les rives gorgées de pétrole du lac Albert. Des accusations réitérées encore aujourd'hui par les autorités ougandaises. Les autorités de Kinshasa ont établi ce poste frontière sans attendre la publication d'une étude ougandaise sur la question frontalière entre la RDC et l'Ouganda. Le groupe pétrolier canadien Heritage Oil a affirmé avoir découvert une réserve de pétrole d'un potentiel de production de plus de 14 000 barils de pétrole par jour. Alors, invité ce soir Aloïs Teguera, vous êtes analyste de Paulin Institute, vous avez déjà travaillé sur ces questions. Est-ce que ce pétrole ne risque pas de porter finalement malheur?
Bon, c'est pas que le pétrole apporte malheur. Le pétrole ferait une différence dans le déficit énergétique que le pays connaît dans l'ensemble. Donc, je ne considérerais pas ça comme un malheur. Au contraire, je considérerais ça comme aussi un autre produit qui peut faire avancer les choses. Mais le problème que nous avons, c'est le problème de la gouvernance de notre pays. Plutôt que vraiment s'échamailler et rester en train de se menacer mutuellement, j'aurais préféré aussi qu'ils amènent des entreprises sérieuses qui commencent aussi à voir quelle est la part du Congo dans ses ressources partagées. Ce problème de la carrière constitue ce que je peux appeler la problématique des ressources partagées avec nos pays voisins. Il n'y a pas que le pétrole dans le lac Albert, mais il y a aussi le pétrole offshore dans l'Atlantique que nous disputons avec l'Angola.
Les zones frontalières maritimes.
Oui, il y a aussi d'autres ressources partagées avec plusieurs pays. Je pense que le vrai problème, c'est que, en fait, j'ai l'impression que notre gouvernement avance dans le sens des revendications, mais prend du temps pour pouvoir effectivement être présent là où les ressources partagées pour essayer d'être aussi là-dedans avec une vitesse intéressante afin d'éviter tous ces problèmes. Si notre gouvernement aussi pouvait hâter le pas et être présent dans l'exploitation, parce que bientôt, d'ici une année ou deux ans, l'Ouganda sera déjà sur le marché du pétrole.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que du côté congolais, on doit faire aussi un effort pour accélérer l'octroi des blocs pétroliers à des entreprises respectables.
Exactement. Et à ce moment-là aussi, on aura assez de faits. De fait, on aura aussi une connaissance du terrain et on peut effectivement nous mettre sur la table de négociation pour discuter avec des faits réels. Parce que pour le moment, tant que ce sont les autres qui avancent sur le terrain, qui font les premiers tests de technologie appropriés, qui font le premier test de ce qui ne marche pas, etc., on est même au point de vue donné, on n'a pas les mêmes connaissances que ces que l'autre compagnie qui est déjà plus avancée que nous. C'est ça le vrai problème. En fait, on discute à partir de quoi si nous n'avons même pas les mêmes données que les autres en face de nous.
Alors, est-ce qu'il devrait, les deux pays, la RDC et l'Ouganda, avoir une même entreprise et gérer de façon commune ce pétrole?
Écoutez, je pense qu'il y a eu des avancées ces derniers temps. Quand j'ai vu le président Kabila aller rencontrer le président Yoweri Museveni à Kassai, je m'imagine que ça fait partie des choses qu'ils ont discutées, parce que c'est ça la ressource partagée principale que nous avons avec l'Ouganda. Bon, je n'ai pas vu les rapports et le contenu de ce qui se sont dit, mais j'imagine que ça c'est des avancées qu'on considère quand les gens commencent à se rencontrer. Là, je pense qu'il y a des vrais trucs qui se discutent.
Alors, le gouvernement congolais, on le savait, depuis un temps, a été en discussion avec des entreprises comme Tullow Oil ou Heritage. Il y a eu des doutes là-dessus. Mais selon vous, comment est-ce que le gouvernement peut surpasser ces doutes-là?
Écoutez, il n'y avait pas de doute. Heritage Oil, Tullow Oil, tout ça, c'était des compagnies qui travaillent avec l'Ouganda. Et nous, notre gouvernement a passé du temps en essayant de les bloquer pour faire avancer sur d'autres pions. Ça, c'est un jeu un peu de dame, mais qui n'est pas intéressant. Si les Ougandais sont avancés, effectivement, et que bientôt ils seront en mesure de commencer à exploiter, je peux demander la question comme citoyen, où est-ce que le Congo en est aujourd'hui? Et effectivement, à part ces spéculations, qui va travailler là-bas, quel est le pays qui va avoir le contrat, quelle compagnie qui va travailler avec le Congo, à part ces spéculations, c'est nous qu'on avance, on a pas de choses palpables que le Congo vraiment aussi est en train d'avancer pour effectivement maintenant entrer en négociation avec l'Ouganda en connaissance des causes et en des données qu'il faut et discuter sérieusement sur comment les richesses partagées peuvent se redistribuer entre les deux voisins.
Aloïs Teguera, merci beaucoup de nous avoir parlé dans cette émission Écho d'économie.
Ok, merci.
C'est avec vous donc que nous terminons cette émission Écho d'économie, préparée par Jocelyne Moussaou Nazar Coco, Daniel Tambinzoni, Berry Luchaka et sous la supervision de Nicole Ngaka, une mise en onde de Jean-Claude Siala. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tous et à demain.